Chapitre 3. Procédés inattendus. Quand Maggie fut rentrée chez elle, sa mère lui parla de la conduite de sa tante Glegg. Aussi longtemps qu'on avait ignoré le sort de Maggie, Madame Glegg avait tenu ses volets à moitié fermés et descendu ses stores. Elle était persuadée que Maggie était noyée. C'était beaucoup plus probable que de supposer que sa nièce et sa légataire eût pu faire quelque chose qui blessât l'honneur de la famille de la manière la plus sensible. Lorsqu'elle apprit enfin de Tom que Maggie était venue au moulin et qu'il lui rapporta l'explication qu'elle avait donnée de sa conduite, elle lui adressa les plus violents reproches de ce qu'il avait admis les suppositions les plus injurieuses au sujet de sa sœur avant d'y être forcé. « Si vous ne défendez pas vos proches, aussi longtemps qu'il y a une trace d'honneur à retrouver en eux, qui soutiendrez-vous, je vous prie ? Croire trop facilement chez quelqu'un de leur propre famille à une conduite qui forcerait à changer un testament, n'avait jamais été la manière d'agir des Dodson. Et quoique Madame Glegg eût toujours mal auguré de l'avenir de Maggie, dans un temps où d'autres personnes étaient peut-être moins clairvoyantes, il valait mieux ne pas la juger si sévèrement. Et ce n'était pas aux parents de cette jeune fille à favoriser les calomnies en lui retirant leur protection pour l'abandonner au mépris du monde, à moins qu'elle n'eût décidément apporté le déshonneur dans la famille. » Ces circonstances étaient sans précédent dans l'expérience de Madame Glegg. Rien de ce genre ne s'était vu auparavant chez les Dodson. Mais dans ce cas, sa droiture héréditaire et sa force de caractère pouvaient s'allier avec ses idées arrêtées sur les relations de parenté, disposition qui l'avait toujours fait agir avec équité en affaires d'argent. Elle se disputa avec M. Glegg, dont toute la bienveillance s'épuisait en compassion pour Lucy, ce qui le rendait aussi sévère dans ses jugements sur Maggie que l'était M. Dean lui-même. Madame Glegg, furieuse contre sa sœur Taleva, de ce qu'elle n'était pas venue aussitôt vers elle lui demander conseil et protection, s'enferma dans sa chambre avec le repos des seins de Baxter depuis le matin jusqu'au soir, refusant toute visite jusqu'à ce que M. Glegg lui apportât, de la part de M. Dean, la nouvelle de la lettre de Stephen. Alors, Madame Glegg sentit qu'elle avait un terrain convenable pour combattre. Alors, elle mit Baxter de côté et consentit à recevoir les visiteurs. Et tandis que Madame Pullet, ne sachant que secouer la tête et pleurer, désirait plutôt que le cousin Abbott fût mort, ou qu'il y eût eu un nombre quelconque de funérailles au lieu de tout ceci, qui ne s'était jamais vu auparavant, en sorte qu'on ne savait comment se conduire, ajoutant qu'elle ne pourrait jamais rentrer à St. Ogg's, parce que ses connaissances savaient tout. Madame Glegg espérait que Madame Wool ou d'autres viendraient vers elle lui débiter leurs histoires malveillantes au sujet de sa propre nièce, et qu'alors elle saurait répondre à ces personnes mal avisées. Elle eut une nouvelle discussion avec Tom, d'autant plus sévère qu'elle occupait maintenant une plus forte position. Mais Tom, comme tout esprit inflexible, ne se raidit que davantage sous cet effort fait pour l'ébranler. Il pensait voir dans les circonstances actuelles les conséquences de faits observés par lui pendant des années, faits qui prouvaient qu'il était impossible de se fier à la nature de Maggie et que son caractère était trop fortement empreint de mauvaises tendances pour que l'indulgence pût réussir auprès d'elle. En tout cas, il se conduisait d'après cette certitude. Mais la seule pensée de cet événement lui rendait la vie amère. Tom, comme il arrive à chacun de nous, se renfermait dans les limites de sa propre nature. Son éducation n'avait fait que glisser sur lui, en laissant une légère couche de vernis. Si vous êtes disposé à blâmer sa sévérité, rappelez-vous que le devoir de l'indulgence incombe à ceux qui ont les vues les plus larges. La répulsion de Tom à l'égard de Maggie découlait de l'intensité même de leur première affection enfantine, alors qu'ils jouaient ensemble, et plus tard de leur union dans des devoirs et des chagrins communs. La vue de sa sœur, comme il le lui avait dit, lui était odieuse. La tante Glegg trouva dans ce rejeton de la famille Dodson un caractère plus inflexible que le sien même, une nature chez laquelle le sentiment d'honneur de famille avait perdu le caractère d'esprit de corps en se revêtant d'une teinte foncée d'orgueil personnel. Madame Glegg convenait que Maggie devait être punie. Elle n'était pas femme à le nier. Elle savait ce que c'est que la bonne conduite, mais punie en proportion des méfaits prouvés contre elle, et non pour ceux qui lui étaient imputés à tort par des gens étrangers qui croyaient montrer en blâmant leur propre supériorité. « Ta tante Gleg m'a grondé comme elle n'avait jamais fait, ma chère, » dit la pauvre Madame Taleva quand elle revint vers Maggie, de ce que je ne suis pas allée plus tôt chez elle, disant que ce n'était pas à elle à venir vers moi la première. Mais aussi, elle m'a parlé comme une sœur. Elle a toujours été d'un caractère dominateur et difficile à contenter. Dieu me protège. Mais elle m'a dit à ton sujet ce que j'ai encore entendu dire de plus consolant, ma fille. Car elle assure que, quoiqu'elle ait toujours été si opposée à avoir un extra dans sa maison, à devoir sortir des cuillères et d'autres choses de plus et à changer ses habitudes, tu trouveras un refuge sous son toit, si tu veux te présenter respectueusement chez elle, et elle te défendra contre tous ceux qui disent du mal de toi, quand ils n'en ont aucun motif. Et je lui ai répondu que tu ne pouvais supporter de voir d'autres personnes que moi, tellement tu es abattue par le chagrin. Mais elle a dit, je ne lui ferai point de reproche. Il y a des gens en dehors de la famille qui seront assez portés à le faire, mais je lui donnerai de bons conseils, et elle doit être humble. C'est étonnant de la part de Jane, car je sais qu'elle avait l'habitude de me reprocher tout ce que je faisais de mal, que ce fût le vin de groseille qui s'aigrit, ou les pâtés trop chauds, ou n'importe quoi. Ô mère, dit la pauvre Maggie, reculant devant la pensée du contact que son âme brisée aurait à supporter. Dites-lui que je suis très reconnaissante. J'irai vers elle aussitôt que je le pourrai. Mais je ne puis voir personne pour le moment, excepté le révérend docteur Ken. Je suis allé chez lui. Il me conseillera et m'aidera à trouver de l'occupation. Dites à ma tante que je ne puis demeurer chez personne, ni être dans la dépendance. Il faut que je gagne mon pain moi-même. Mais n'avez-vous rien appris de Philip Wakeham? N'avez-vous rencontré personne qui vous l'ait nommé? Non, ma chère, mais je suis allée chez Lucy et j'ai vu ton oncle, et il dit qu'elle a pu entendre la lecture de la lettre, et elle a reconnu Miss Guest, et lui a fait quelques questions. Le docteur pense qu'elle commence à aller mieux. Quel monde que celui-ci! Que de peine, grand Dieu! Le procès a été la première affaire, et ça est allé mal en pis tout de suite, justement quand le bonheur paraissait revenir. C'était la première lamentation que Madame Taleva eut laissée échapper devant Maggie, mais sa vieille habitude s'était réveillée par son entrevue avec sa sœur Gleg. « Ma pauvre mère !» s'écria Maggie, le cœur saignant de pitié et de compunction, et lui jetant les bras autour du cou. « J'ai toujours été pour vous une occasion de peine et de désagrément. Et maintenant, vous auriez pu être heureuse sans moi. » « Eh, ma chère, » dit Madame Taleva, en s'appuyant contre cette joue jeune et brûlante, « je dois m'arranger de mes enfants. Je n'en aurai jamais d'autres. Et s'ils m'apportent une mauvaise chance, il faut que je m'en contente. Il n'y a aucune chose qui puisse me rendre très satisfaite, car mon mobilier est parti il y a bien longtemps. Tu commençais enfin à être très sage. Je ne comprends pas comment tout cela a si vite mal tourné. » Deux ou trois jours se passèrent encore, et Maggie n'apprit rien de Philip. Son inquiétude à ce sujet était devenue sa principale pensée. Elle rassembla donc son courage pour s'informer de lui auprès du révérend docteur Ken à la première visite qu'il lui fit. Il ne savait pas même si Philip était chez lui. Wakeham le père était devenu inabordable par suite des contrariétés que le moulin lui avait occasionnées. Sa déception au sujet de ce jeune Jetsam, auquel apparemment il était très attaché, avait été suivi de près par la chute des espérances de son fils, et cela après qu'il avait fait le sacrifice de son ressentiment et fait connaître imprudemment cette concession dans la société de St. Ogg's, et il était d'une brusquerie presque brutale lorsque quelqu'un lui faisait une question au sujet de son fils. Mais Philip ne pouvait guère avoir été malade, sinon on l'aurait su par les visites que le médecin lui aurait faites. Il était plus probable qu'il avait quitté la ville pour quelque temps. Maggie souffrait de cette incertitude, et son imagination commença à s'occuper toujours plus de ce que pouvait éprouver Philip. Que pensait-il d'elle? Enfin, Bob lui apporta une lettre sans timbre de la poste, avec l'adresse d'une écriture qui lui était familière quant à son propre nom, une écriture qui avait tracé ce nom longtemps avant dans un Shakespeare de poche qu'elle possédait. Sa mère était dans le salon, et Maggie, avec une violente agitation, s'empressa de monter à sa chambre afin d'être seule pour lire cette lettre. Elle la lut avec une émotion concentrée. « Maggie, je crois en vous. Je sais que vous n'avez jamais eu l'intention de me tromper. Je sais que vous avez tâché de m'être fidèle et de l'être pour tous. Je l'ai toujours pensé, même avant d'en avoir quelque autre preuve que ma connaissance de votre propre nature. Dans la nuit qui suivit notre dernière réunion chez Mestine, je souffris de cruels tourments. J'avais vu et j'étais convaincu que vous n'aviez plus votre liberté d'esprit, qu'il y avait une autre personne dont la présence avait sur vous un pouvoir que la mienne n'a jamais possédé. Mais au milieu de toutes mes pensées, presque des pensées de meurtre, de rage, de jalousie, j'en vins à croire à votre fidélité. J'étais sûr que vous aviez l'intention de vous attacher à moi, comme vous l'aviez dit, que vous l'aviez repoussé, lui, que vous luttiez pour renoncer à lui, à cause de Lucy et à cause de moi. Mais je ne pouvais prévoir aucun résultat qui ne vous fût fatal, et cette crainte bannissait en moi toute disposition à la résignation. Je compris qu'il ne renoncerait pas à vous, et je crus alors, comme je le crois encore aujourd'hui, que la forte attraction qui vous portait l'un vers l'autre ne provenait que d'une partie de vous-même, et qu'elle appartenait à cet élément de notre nature qui crée le drame de nos vies. J'ai reconnu en vous la vibration de corde dont j'ai toujours senti l'absence en lui. Mais peut-être ai-je tort. Peut-être que je sens à votre égard comme l'artiste à l'égard du sujet dont son âme est imprégnée avec amour. Il tremblerait de le voir confié à d'autres mains. Il ne pourrait admettre qu'un autre pût y trouver toute la valeur et toute la beauté qu'il y découvre lui-même. Je n'osais pas me fier à moi pour voir ce matin-là. J'étais tourmenté de passions égoïstes. J'étais écrasé par une nuit de délire intérieur. Je vous ai dit il y a longtemps que je ne m'étais jamais résigné même à la médiocrité de mes talents. Comment pouvais-je me résigner à la perte de la seule chose qui fût jamais venue à moi sur la terre avec la promesse d'une félicité si profonde qu'elle aurait fait accepter et bénir toute souffrance antérieure, la promesse d'un autre moi-même qui aurait changé mon état de souffrance en un ravissement de joie toujours pure et nouvelle. Mais les angoisses de cette nuit m'avaient préparé à ce qui est arrivé. Ce ne fut point une surprise pour moi. J'étais certain qu'il vous avait assez dominé pour que vous lui sacrifiiez tout, et j'attendais avec une égale certitude l'annonce de votre mariage. Je mesurais votre amour et le sien d'après le mien. Mais j'avais tort, Maggie. Il y a en vous quelque chose de plus puissant que cet amour. Je ne vous dirai point ce qui s'est passé en moi pendant cet intervalle. Mais au milieu de ma plus grande agonie, même dans ces terribles secousses dont le cœur doit souffrir avant de pouvoir se dégager de tout égoïsme, ma tendresse pour vous a pu seule me préserver du suicide. Du milieu de cet égoïsme, je ne pouvais accepter que ma mort vînt jeter une ombre sur le bonheur dont vous jouissiez. Je ne pouvais désirer abandonner le monde dans lequel vous viviez encore, et vous pouviez avoir besoin de moi. C'était une partie de la foi que je vous avais vouée, attendre et souffrir. Maggie, en vous écrivant maintenant, je vous donne la preuve qu'aucune des angoisses que j'ai eu à supporter à cause de vous n'a été un prix trop élevé pour payer la vie nouvelle où je suis entré en vous aimant. Je désire que vous mettiez de côté tout chagrin dont je pourrais être l'objet. J'ai été nourri dans l'habitude de la privation. Je n'ai jamais attendu le bonheur. Et, en vous connaissant, en vous aimant, j'ai obtenu et je possède encore ce qui me réconcilie avec la vie. Vous avez été pour mes affections ce que la lumière, ce que la couleur sont pour mes yeux, ce que la musique est à mon oreille. Vous avez changé une activité sans but en une vive appréciation du devoir. La vie nouvelle que j'ai trouvée en m'occupant plus de vos joies et de vos tristesses que de ce qui me concerne directement a transformé mon esprit de révolte et de murmure en cette résignation volontaire d'où naît la vraie sympathie. Je ne crois pas qu'aucune autre chose que cet amour complet et intense eût pu m'initier à cette vie plus étendue qui se développe en s'appropriant la vie des autres. Car auparavant, j'en étais constamment détourné par un mécontentement intérieur toujours présent. Je crois même quelquefois que ce don que j'ai reçu en vous aimant, d'une âme qui peut vivre de la vie d'un autre, deviendra une nouvelle puissance en moi. Ainsi, très cher, malgré tout, vous avez été la bénédiction de ma vie. Ne vous faites point de pénibles reproches à mon sujet. C'est plutôt moi qui devrais m'en faire, pour vous avoir fait connaître trop tôt mes sentiments et avoir accepté prématurément des paroles que vous avez considérées comme un engagement. Vous vouliez être fidèle à ces promesses, et vous l'avez été. Je puis juger de l'étendue de votre sacrifice, d'après ce que j'ai éprouvé dans cette seule demi-heure où votre présence m'a fait rêver que vous pourriez me préférer à tout. Mais, Maggie, je ne me reconnais d'autre droit sur vous que celui d'un souvenir d'affection. Pendant quelque temps, j'ai redouté de vous écrire, parce que je craignais même de paraître désirer me présenter à vous et de raviver ainsi mon erreur première. Mais vous ne le prendrez pas en mauvaise part. Je sais que nous devons rester séparés pendant longtemps. Des langues cruelles nous y forceraient, même sans d'autres motifs. Mais je ne m'éloignerai pas. L'endroit où vous êtes est le seul où mon esprit puisse vivre, quel que soit le lieu où je me trouve. Rappelez-vous que je vous suis inaltérablement fidèle. Fidèle non avec d'égoïstes désirs, mais avec un dévouement qui les exclut. Que Dieu vous console, vous que j'aime, Maggie, vous âme si noble. Lors même que d'autres ont pu vous mal juger, rappelez-vous qu'il n'y a jamais eu de doute en celui dont le cœur vous a connu il y a 10 ans. Ne croyez personne de ceux qui vous diront que je suis malade, parce qu'on ne me voit pas hors de la maison. Je n'ai eu que des maux de tête nerveux, pas pire que précédemment. Mais la chaleur accablante m'engage à rester parfaitement tranquille pendant le jour. Je suis assez fort pour pouvoir obéir au moindre mot qui m'apprendrait que je peux vous servir par mes actions ou par mes paroles. Pour toujours, votre dévoué Philip Wakeham. Maggie, agenouillée près de son lit, pressait cette lettre sur son cœur, et ses pensées se confondaient de plus en plus et se résumaient en un seul cri, murmurant toujours les mêmes paroles. « Ô Dieu, l'amour pourrait-il m'offrir une félicité capable de me faire oublier leur douleur ?»